Nous lisons d'abord dans le livre de Job le début du chapitre 29, et puis nous aurons quelques paragraphes par la suite. Début de Job 29. C'est après, je situe le contexte de ce passage. Vous savez que Job, après un temps de belle prospérité, a été soumis à de très dures épreuves et qu'il a beaucoup souffert. Et puis plusieurs amis, trois amis sont venus pour essayer de le consoler. Et il y a eu tout un dialogue, c'est le cœur du livre de Job, entre ses amis qui prétendaient consoler Job et Job qui avait du mal à se laisser consoler par ses amis parce que leur discours ne lui convenait pas. Et après ces trois amis, Job reprend la parole. Et c'est ici que nous prenons notre lecture. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et indie. « Oh, que ne puis-je être comme au moi du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait un ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. » Et un peu plus loin. « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon lit, dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi. Et je reprends un peu plus loin, verset 16. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a rejeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Et un peu plus loin. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié pour l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venus. Mes entrailles bouillonnent sans relâche Les jours de la calamité m'ont surpris. Je suis noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie, je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Ma flûte ne peut rendre que des sons plaintifs. Dans une des publicités récentes et maintes fois répétées, la jeune personne qui invite à acheter quelque chose termine son propos, moi je le faisais il y a quelques jours, par une parole très appuyée en disant « Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? » Attendre. C'est le sujet de ma méditation de ce matin. Nous avons bien des textes de l'Écriture qui nous en parlent. Et on peut en parler de plusieurs manières et sous plusieurs angles. J'ai choisi un angle particulier, celui que nous donne le livre de Job, qui est un livre très intéressant et très riche, et aussi plein de questions. Dans le fait de les aborder, et dans le fait d'en laisser un bon nombre encore en suspens, avec des réponses à multiples étages. Nous avons en tout cas un texte très connu dans le Nouveau Testament, nous pouvons nous le rappeler rapidement, c'est à la fin du livre de Jacques, nous lisons ceci. L'attente est liée ici à la patience. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ce texte de Jacques nous relie donc aussi de façon explicite au texte de Job. L'attente, l'exemple type de l'attente dans le texte que nous venons de lire, c'est l'attente de l'agriculteur pour que le soleil, la pluie, et la saison et tous les éléments qui doivent concourir pour cet objet fassent que vienne à maturité le fruit qui est attendu, l'attente de l'agriculteur pour la maturation du fruit. C'est un exemple type de l'attente. L'attente fait partie de la vie comme quelque chose qui est inscrit naturellement, c'est même une nécessité. Quand vous roulez en voiture et que vous vous trouvez en ville et que le feu passe au rouge, vous avez la nécessité d'attendre que le feu revienne au vert. Celui-là n'est pas dans le Nouveau Testament d'exemple, mais on comprend tout de suite cette nécessité. L'attente est aussi une vertu. C'est dans ce sens qu'on relie l'attente à la patience. Et ici, on peut mentionner comme exemple le fait de prendre le temps de comprendre quelque chose avant d'exprimer une opinion sur l'objet en question, ou pour répondre à une question difficile avant de se précipiter dans une réponse qui ne seraient pas suffisamment réfléchis. Le temps de réfléchir. Et puis, l'attente peut aussi être un piège. Je vous avoue que j'ai eu plus de mal à trouver un verset sur l'attente comme piège que sur l'attente comme vertu. Mais j'en ai quand même trouvé un. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous demander, parce que ce n'est pas des livres et des textes les plus couramment repérés. Mais j'ai trouvé un texte dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11 et au verset 4. Et voici ce qui est dit dans ce texte. « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Là, on a basculé de l'autre côté de la prudence pour entrer sur le terrain de l'indécision, de l'incapacité à choisir, à dire qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut agir. Attendre quand il faudrait agir, rater son train, voilà. Donc, esquisser les quelques éléments d'introduction, je voudrais maintenant venir plus précisément à ce que nous avons trouvé déjà dans le livre de Job. Et Job commence dans le début de son dernier propos par se souvenir de son état premier. Et dans cet état premier, qu'avons-nous ? Un homme qualifié d'un juste, un juste, c'est-à-dire un homme approuvé de Dieu, qui vit même avant le temps du peuple d'Israël, qui vit donc dans des temps très reculés de l'histoire, mais qui connaît Dieu, qui l'honore et qui s'applique à vivre en conformité avec le bien, avec la solidarité, avec ce qui est juste. Et cet homme, assez naturellement, pense que sa vie va continuer comme elle a commencé, c'est-à-dire en se déroulant de façon positive, paisible et avec beaucoup de sujets de joie. Il attend le bonheur encore, jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il dit qu'il espère, comme nous tous d'ailleurs, hein, mourir tranquillement dans notre lit. Hein. Je pense hein, qu'on espère ça plutôt que des choses plus difficiles. C'est une attitude normale. Je voudrais le souligner avec force. C'est une attitude tout à fait normale pour tout être humain, pas simplement les croyants, que d'attendre le bonheur. C'est la logique qui se situe dans le fil de la vie. Mais le malheur est arrivé pour Job. Son attente du bonheur a été plus que déçue, elle a été complètement ravagée par la souffrance. Job a été soumis à des épreuves multiples qui sont racontées donc au début du livre et qui l'ont accablé. Vous avez vu les textes. Alors, bien sûr, vous comprendrez aisément que mon propos ce matin n'est pas d'étudier tout le livre de Job dans ses tenants et dans ses aboutissants. Je l'ai pris sur cet angle de l'attente. Et le premier aspect que je voudrais ici souligner à la faveur de cette expérience, c'est ce que j'appelle tout simplement l'attente déçue du juste dans le malheur. J'attendais le bonheur et c'est le malheur qui est arrivé. J'attendais la lumière et ce sont les ténèbres qui sont arrivées. Nous trouverons une deuxième fois un texte tout à fait identique à celui-là sous la plume d'Ésaïe. Ça sera le paragraphe suivant. Mais je m'arrête donc sur cette attente déçue du juste dans le malheur. Quel contraste entre le chapitre 29 et le chapitre 30. Contraste dur, violent. Peut-être que chez Job, peut-être, se mêle à ce sentiment naturel d'espérer, d'attendre le bonheur, le fait, plus ou moins conscient, de se dire « puisque j'ai fait du bien, je dois normalement en récolter au moins des bons fruits ». Et puisque j'ai aidé les autres, c'est quand même un chapitre important de ce qu'il a fait. Voilà, ça continuera comme ça et je serai heureux. Je serai heureux. Le juste qui pense et fait le bien peut être frappé par le malheur, mais nous sommes obligés de le constater dans ce cas, son comportement ne lui assure aucune garantie d'être épargné par la souffrance. Aucune garantie d'être épargné par la souffrance. Alors évidemment, nous qui connaissons le livre de Job, nous savons la raison de ces souffrances. C'est que Satan a lancé un défi à Dieu en disant « Job te sert par intérêt, parce que tu le bénis. » Et Dieu a accepté que le défi soit posé directement à Job. Et c'est pour cela que le malheur s'est abattu sur Job. Et c'est là-dessus que le débat entre Job et ses trois premiers compagnons est à la fois intéressant et difficile. C'est que Job, lui, dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas, le malheur m'accable et je ne comprends pas. Et les amis de Job, eux, ils ont une explication toute trouvée. Si le malheur s'est abattu sur toi, c'est que tu as péché quelque part. C'est tout. Cherche où tu as péché. Et Job dit, dit pas qu'il est parfait, mais il dit, mais je ne vois rien que j'ai fait qui mérite un châtiment. Les amis de Job ont sur ce terrain tout faux, pas sur tous, hein, mais sur ce terrain de l'explication de la souffrance de Job, ils ont faux. Parce qu'ils prétendent que Dieu châtie en fonction des péchés commis. Ce n'est pas exact du tout. C'est une fausse piste. Le juste est frappé par le malheur, parce que le malheur, malheureusement, existe sur la terre, et parce que pour Job, il y a quelque chose de particulier. Les bonnes œuvres de Job ne lui procurent aucun mérite auprès de Dieu. Ça, c'est une autre vérité fondamentale. Et c'est là, effectivement, où il y a un grand problème et une grande incompréhension. Et c'est tout le débat du livre de Job. Un débat avec, en tout cas, des fausses réponses écartées, mais avec de larges ouvertures où il n'y a pas encore d'explication. Nous reprendrons un peu plus tard quelque chose sur ce sujet. Je voudrais aborder une deuxième attente déçue. Alors, celle-là, nous la lisons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59, versets 9 à 11. L'arrêt de la délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alors ici, nous avons retrouvé presque la même expression. Nous attendions la lumière et ce sont les ténèbres qui sont venues. Mais le contexte est complètement différent. Et pour avoir le contexte, je lis le début de ce psaume, de ce chapitre 59 d'Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il l'empêche de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ici, c'est l'attente déçue de l'insensé. Ce n'est pas l'attente déçue du juste, c'est l'attente déçue de celui qui, ayant connu l'Éternel, s'est détourné de lui. Et donc, ça correspond à la période où le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, a fait le mal, et prétendait continuer à bénéficier des faveurs et des bénédictions de Dieu. Ici, le contexte est différent. Je lis encore quelques versets. En fait, c'est ce que j'ai lu au début. Voilà. Bon. Donc, ils sont déjà enregistrés. C'est ceux qui disent que la délivrance s'est éloignée, mais la cause, nous l'avons lue au début, et elle revient encore, ce sont les péchés du peuple qui font que Dieu ne vient pas à son secours et ne vient pas lui apporter la délivrance. Ici, le contexte est complètement différent. Le peuple de Dieu se prive du secours de Dieu par son abandon du chemin de la foi, son abandon du Seigneur, son comportement pécheur. Il y a un verset que j'ai cité plusieurs fois, je vais le citer à nouveau parce qu'il est bien dans notre contexte. Il est insensé, en connaissant Dieu, d'attendre le bonheur en étant délibérément infidèle à Dieu. C'est Deutéronome 29, 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contracté avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. » Nous avons dit, dans un premier temps, les croyants peuvent être frappés par le malheur. Mais nous devons ajouter dans cette deuxième partie, quand on est délibérément pécheur, on ne doit pas attendre la délivrance de Dieu. Parce que la délivrance de Dieu existe et la consolation du Seigneur existe. Et le secours dans l'épreuve existe pour Dieu, de la part de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui. Par la foi, si le croyant peut être dans l'épreuve, il peut être épargné par l'épreuve ou il peut être délivré dans l'épreuve. Il faut ajouter à ce que nous avons dit dans la première partie cet autre élément essentiel. Par la foi, le croyant peut soit être épargné de l'épreuve, soit être délivré dans l'épreuve. Et cela, c'est la richesse de ce qui est apporté par le Seigneur lorsque le juste se trouve dans la souffrance. Je voudrais faire un pas de plus dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Job, pardon. Là, j'étais sur Ésaïe, je reviens au livre de Job. Au livre de Job, nous avons donc le dialogue du début, de toute la grande première partie du livre, dialogue entre les trois amis et Job. Mais il y a un quatrième ami. Ce quatrième ami s'appelle Élihu. Et je voudrais lire le début du chapitre 32 de ce livre de Job. C'est le quatrième homme, le dernier qui parle. Et voilà ce qu'il dit. Enfin, le chapitre 32 commence ainsi. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Élihu. Élihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu, et sa colère s'enflamma contre les trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondais-je tout autrement que vous. À mon tour, je vais répondre. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et qu'ils ne sachent plus répliquer. À mon tour, je vais répondre, moi aussi. Et il commence donc à développer son discours sur Job. Et que lui dit-il ? D'abord, je m'arrête sur quelque chose qui peut paraître beaucoup moins important que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quelle est l'attente qui est ici mentionnée ? C'est l'attente d'Élihu, le jeune, pour laisser d'abord parler les anciens. On dirait, bon, c'est bien, c'était une époque. Je veux quand même le souligner pour dire qu'il y a là un contexte particulier, le respect de ceux qui normalement devraient avoir plus de sagesse que les jeunes. Et ça arrive quand même de temps en temps, il faut espérer. Mais comme dit Élihu, ce n'est pas automatique. Voilà. Ce n'est pas la longueur des jours qui fait automatiquement qu'au bout, on trouve de la sagesse. Et il a dit, j'ai attendu, bon, ça ne l'a pas empêché de bouillonner, mais il a attendu dans le respect des anciens. Voilà, je ne vais pas beaucoup développer, mais le mentionner comme quand même une réalité que je relis alors en extrapolant le texte, bien entendu, pour dire qu'il faut savoir aussi respecter les temps. Les temps de maturation, pas seulement des plantes, des personnes aussi. Et qu'il faut aussi respecter un certain nombre de cycles de la nature et de choses qui sont ainsi inscrites dans la réalité du temps qui s'écoule. Et peut-être, que ici, aujourd'hui, dans notre 17 septembre 2017, que ce soit les jeunes, ceux d'âge du milieu et les plus âgés, nous avons besoin de réapprendre à valoriser le temps. C'est quelque chose qui a du sens et c'est quelque chose qui est important. Le respect de ce temps. Et je voudrais arriver à la dernière partie de ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est bien sûr l'attente de la foi. Et l'attente de la foi, je la trouve aussi dans le livre de Job et dans la bouche d'Élihu. Je lis le chapitre 35 de Job. Voilà, parmi d'autres choses, ce que dit Élihu. Il s'adresse à Job. Imagines-tu avoir raison ? Penses-tu te justifier devant Dieu ? Quand tu dis, que me sert-il ? Que me revient-il de ne pas pécher ? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des nuits d'allégresse pendant la nuit, des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant lui, devant Dieu. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit pas encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Ainsi, Job ouvre vraiment la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Je relève ce mot simple d'Élie. Que dit-il dans ce paragraphe? Il dit, on ne voit pas arriver ce qu'on souhaite, le châtiment du méchant par Dieu, la délivrance, la réponse attendue, on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'effet de son action. Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance du salut. Alors, Élie a cette parole simple, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant lui. Attends-le. Dieu connaît, te connaît toi, connaît ta situation, connaît ta souffrance, connaît ce que tu lui demandes, connaît même le cri que t'arrache la souffrance. Ta cause, c'est comme un plaidoyer devant un avocat, devant un juge. Ta cause est devant lui, attends-le. C'est l'attente de la foi, c'est l'attente du croyant, c'est l'attente qui nous est proposée. L'attente de la foi dans le livre de Job. Mais l'attente de la foi, évidemment, là nous pourrions citer à l'appui de très nombreux textes de l'Écriture, et en particulier ceux qui visent à la fin de l'Ancien Testament et au tout début du Nouveau, toutes les attentes qui visent à l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Vous avez remarqué dans les récits de la venue de Jésus, dans le livre de Luc, c'est très, très évident, parce qu'il rapporte les faits de plusieurs dont il est dit qu'ils attendaient. Ils attendaient la consolation, ils attendaient la délivrance. C'est Siméon, c'est Anne et c'est beaucoup d'autres. Ils attendaient ce que Dieu avait promis. D'ailleurs, Jésus, en partant, a dit à ses disciples, « Attendez jusqu'à ce que vienne la première promesse qui doit s'accomplir, c'est la venue du Saint-Esprit. Attendez l'accomplissement de la promesse. » Je voudrais lire, encore une fois, ce texte de Jacques, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, lorsqu'il y encourage à être patient, tous les croyants à voir la patience de l'agriculteur qui attend le fruit de la terre. Et il dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et il encourage ceux qui souffrent en regardant à la patience de Job. la patience et la persévérance pour que s'accomplissent les promesses. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, très connu, rapporte à plusieurs reprises aussi cette attente. Il y associe même la création. Il dit la création attend avec un ardent désir la délivrance, l'accomplissement de cette venue de Jésus qui va apporter la grande délivrance, la délivrance finale par rapport à tous les malheurs qu'a entraîné le péché. Et nous, nous attendons aussi, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, dit l'apôtre Paul. Et si nous attendons l'accomplissement de ces promesses, nous l'attendons avec persévérance. Voilà ce qui nous est proposé. Et voilà ce que j'ai redécouvert récemment en relisant ces textes dans le livre de Job et que j'ai souhaité partager avec vous ce matin. Parce que nous avons un texte très ancien, mais qui dit l'essentiel de ce qui nous motive, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous permet de traverser les épreuves et ce qui nous permet de regarder plus loin que ce que nos yeux voient, nos yeux matériels, nos yeux humains. Tu ne le vois pas, mais sache que ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le. Ce n'est pas « attends-là » la délivrance, c'est « attends-le, le Seigneur, Jésus, qui nous délivre et qui attend avec nous l'accomplissement plein de toutes choses au moment où cet accomplissement viendra se réaliser. » Nous allons maintenant nous préparer à partager le pain et le vin. Et pour nous y préparer, je lis avec vous ce texte que nous lisons assez souvent aussi, à la fin de la lettre de Paul à Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. De notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je propose que nous nous préparions à partager le pain et le vin en souvenir de la mort de Jésus-Christ, du corps offert sur la croix du calvaire et du sang versé, en ayant dans notre cœur et dans nos pensées ce dernier verset, Jésus-Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Cette expression revient à plusieurs reprises dans les Épîtres. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est le premier objet du grand sacrifice de la croix, de la mort sur la croix, du corps offert et du sang versé. Et après ce rachat de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous allons méditer cela. Et nous allons le faire d'abord en chantant « Rédempteur adorable sur la croix attachée ». Je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble ce cantique.